hors champ. Bonjour à toutes et à tous, hors champ aujourd'hui avec Leslie Kaplan. Si j'y pense, ça me fait peur. Si ce n'est pas moi qui habite là, dans mon corps, si c'est quelqu'un d'autre, ça me fait peur. Suppose, oui, suppose. Suppose qu'on soit plusieurs dans un même corps, ça serait. La crise du logement? Tu te moques, mais ce n'est pas drôle. Parfois, je ne suis pas sûre. Comment ça, tu n'es pas sûre? Parfois, j'entends des bruits, comme s'il y avait quelqu'un. Des bruits? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bruits? Des voix? Etc. Leslie Kaplan, je viens de lire la page 42 de votre livre qui s'intitule « Toute ma vie, j'ai été une femme ». Vous oui. en êtes sûre d'être une femme?
Justement, peut-être le livre, c'est pour ça. Et d'ailleurs, une des personnes là-dedans s'interroge sur cette phrase « Toute ma vie, j'ai été une femme ». Quelle phrase! Quelle phrase étrange quand on l'a dit. Donc, je crois que c'est à la fois une interrogation sur être une femme, sur être, et certainement sur les mots, bon, tout au long des textes.
Au fond, depuis que vous avez commencé à écrire, Leslie Kaplan, vous êtes toujours interrogée non seulement sur le langage, mais aussi sur la possibilité de retrouver la source de l'identité. Et ce, par les mots, par un travail sur les mots. Et vous n'avez pas hésité à dévoiler des pans de votre propre itinéraire dans ce livre magnifique qui s'intitule « Mon Amérique commence en Pologne » parce que dès le début de votre existence, les choses étaient brouillées.
Brouillées, oui, peut-être compliquées. Un peu compliquées ou complexes ou toujours avec plusieurs niveaux. Bon, peut-être les mots n'allaient jamais de soi, bon, puisque j'étais une petite Américaine vivant à Paris, donc vivant dans une autre langue que celle que je parlais à la maison, par exemple, bon, et qui avait aussi la langue, le yiddish derrière, enfin, tout ça. Et je crois que c'est vrai, les mots m'ont toujours semblé à la fois évidents et pas du tout évidents. Bon. Bon, et je crois que ça, c'est certainement une des choses qui m'a motivée à écrire. Et peut-être aussi à inventer ce personnage Miss Nobody Knows, Mademoiselle Miss Personne ne sait, bon, qui traverse quelques livres. Et je crois que, et certainement, bon, toute ma vie j'étais une femme, est aussi vient de là.
Si vous êtes née en Amérique et pas en France, c'est à cause de la guerre.
Non, pas exactement. Mes parents étaient américains, bon, complètement américains. Ils étaient de la deuxième génération. Leurs parents avaient quitté la Pologne pour aller aux États-Unis, mais mes deux parents sont nés aux États-Unis. Et mon père est venu en France avec la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il s'est engagé même avant que les États-Unis ne rentrent en guerre. Enfin, disons qu'il a voulu participer à l'effort, la radio et tout ça à New York. Bon. Et après, bon, il a voulu rester en France. Donc, il a demandé à ma mère et moi, tout bébé, de venir.
Nous allons écouter la voix de votre père, Harold Kaplan, dans un avoi nu de Philippe Meyer datant de octobre 2008.
Avant la guerre, je militais pour que nous entrions dans la guerre le plus rapidement possible. À cause de cela, je me suis séparé de beaucoup d'amis parce que l'Amérique était encore très indécise. Heureusement, les Japonais, M. Adolf Hitler, ont mis fin à nos incertitudes en nous déclarant, la guerre. Donc, et j'étais en route et en désespéré que cela arrive, sans pouvoir le prévoir. Je me suis engagé avec un groupe qui avait son quartier général à Washington, qui devait m'envoyer en France, malgré que nous n'ayons pas, nous-mêmes, encore un rôle dans la guerre. Je devais faire ambulancier, n'est-ce pas ? Et il fallait d'abord que j'apprenne à conduire. Et donc, j'étais en route pour Washington quand j'ai eu la nouvelle terrible de juin 40. Je me destinais au professorat, non pas de français, mais d'anglais. Et c'est le passage à Chicago qui a changé tout ça. À cette époque, il était franchement difficile pour quelqu'un avec mes antécédents. J'étais fils d'immigrants polonais, juifs, de l'Europe orientale. Et les facultés anglaises étaient encore très racistes chez nous. L'Amérique, où j'ai grandi, était un pays raciste. Il n'y a rien à dire. C'est très important pour moi, pour ma forme, beaucoup plus important que je ne réalisais à cette époque. Et le fellowship dont j'avais besoin pour aller à Chicago, la bourse, était offerte comme ça, très généreusement, par le département de français, grâce à Vigneron et Étiamble. Et qui ont dit, voilà quelqu'un de prometteur, et m'ont envoyé, et m'ont proposé cette bourse. Et j'ai commencé là à faire sérieusement mon apprentissage, qui aurait fait de moi un professeur de langue et de littérature française à Chicago, si la guerre n'était venue chambouler tout ça.
C'est émouvant d'entendre la voix de votre père, Leslie Kaplan. Que vous a-t-il transmis ?
Certainement l'amour des livres, bon, et je crois aussi une grande curiosité par rapport à tout. Il aimait se promener dans la rue et regarder ce qui se passait. Bon, il était intéressé par toute forme de vie. Ça, je crois qu'il a transmis ça. Enfin, j'espère.
On a l'impression, Leslie Kaplan, que tout au long de votre parcours d'écriture, il y a quand même des évolutions, pas des changements, mais des évolutions, et que de plus en plus, vous faites confiance aux personnages qui peut-être trottent dans votre tête. En tout cas, en tant que lecteur, nous, on a l'impression que vous construisez des personnages qui, tout d'un coup, prennent corps. Ce ne sont pas seulement des êtres de fiction, ils existent. Et quand on lit, par exemple, Louise, elle est folle, on se dit, elle existe, vous ne l'avez pas inventée. Comment ça se passe, l'élaboration de l'invention d'un personnage ?
En fait, je pense que, en tous les cas, en ce qui me concerne, l'invention du personnage part toujours de questions que je me pose. Dans le cas de Louise, elle est folle, cette pièce de théâtre, et du personnage Louise, d'ailleurs, qu'on ne voit jamais, en fait, la question tournait autour de la folie. On dit à quelqu'un, mais tu es folle. Et comment elle peut réagir, comment on peut l'enfermer là-dedans, et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui dit ça, puisque en fait les deux personnages qui existent dans la pièce sont les personnages qui se, les deux femmes, qui se renvoient cette question. Donc c'est bon, et pour essayer d'ailleurs de se matraquer l'une l'autre, d'essayer de dire que l'autre n'est pas dans la norme. Donc ça rebondit sur une question, qu'est-ce que c'est que la norme ?
Qu'est-ce que c'est que la norme ? Qu'est-ce que c'est le regard sur l'autre ? Qu'est-ce qu'on est soi aussi ? Parce que ces deux filles, elles encerclent comme dans une ronde infernale cette Louise dont elles ne savent pas véritablement où la classer. Parce qu'elles-mêmes, du coup, ne savent pas toutes les deux où se placer et qui elles sont.
Oui, mais tout à fait. Elles se demandent d'ailleurs comment parler. C'est une des questions. Comment tu me parles ? Mais qu'est-ce que c'est parler ? Mais de quoi tu me parles ? Etc. Et en fait, vraiment, c'est aussi, disons, des questions sur le langage, comment le langage peut être une vraie adresse à l'autre, bon, comment il peut y avoir un vrai dialogue, ou au contraire, est-ce que le langage est un échange de clichés, comme ça se passe souvent ? Bon, la pièce était tout de même aussi beaucoup faite par rapport à cette question-là, comment on peut renverser, il y a un petit essai après qui s'appelle Renversement, comment on peut renverser le consensus, les clichés, tout ce qu'on dit et qui n'est en fait que du vide.
Alors, on a la sensation presque physique, Leslie Kaplan, quand on vous lit, et on reviendra sur le dernier ouvrage, Mathias et la Révolution, que les mots nous construisent, et que vous, vous êtes peut-être un écrivain qui nous aidait à, finalement, à désosser le langage pour comprendre quelles sont les racines de notre être.
Oui, mais moi je crois que le langage est en effet quelque chose qui construit et qui déconstruit en même temps, parce que justement il peut tout à fait déconstruire des idées reçues. Bon, par exemple, Flaubert avait déjà écrit un dictionnaire des idées reçues. Le langage peut tout de même à la fois porter de la vie et porter de la mort, porter quelque chose qui est un discours mort, ou alors un discours sans aucune adresse, comme le langage de la pub, ou bien souvent, malheureusement, je dis bien, le langage politique. Et c'est certainement aussi pour ça, mais ça, nous anticipons, que j'ai voulu mettre en scène d'une certaine façon des mots de la Révolution française, où le langage avait vraiment un sens et portait.
Alors, on reviendra sur Mathias et la Révolution et la manière dont la Révolution française nourrit encore le discours politique d'aujourd'hui. Mais il y a aussi, dans Millefeuille, dans Louise Alléfolle, il y a toujours cette dimension que vous nous transmettez aussi du langage que nous utilisons toute la journée sans que nous l'habitions. Oui. Le langage passe partout, le langage passe muraille, le langage outil de communication...
Ça, c'est quand même une grande question qui est d'ailleurs existe depuis qu'il y a du langage, c'est-à-dire depuis toujours pour les hommes. Hein, c'est-à-dire que le langage peut être à la fois la meilleure et la pire des choses. Bon, ça, c'est déjà Ésope qui disait ça. En fait, c'est vrai qu'au détour d'une phrase, on peut se rendre compte que le langage tourne complètement à vide, que vraiment il a aucun sens, ou au contraire, qu'il est revitalisant. Et je crois que ça m'intéresse beaucoup d'essayer de saisir là où le langage lui-même peut nous surprendre, où les mots, si on les écoute bien, quelque part sont vraiment presque en avance de nous, ou peuvent nous apporter quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Bon, ça c'est vrai que le langage porte toujours une part, tout de même, une part de non-pensée. Bon, c'est aussi la question de l'inconscient.
Est-ce que l'écriture du théâtre, parce que certains de vos textes sont écrits pour le théâtre et sont d'ailleurs mis en scène de plus en plus, partout en France. Est-ce que cette écriture pour le théâtre, que personnellement, moi je lis comme une écriture pleine et entière, qu'on peut lire comme un roman, une fiction, cette écriture particulière, puisqu'elle doit être mise en bouche par des comédiens, et c'est aussi un jeu de paroles et un jeu de réponses et de dialogue très très rapide. C'est dans l'intervalle entre les phrases qu'il se passe aussi quelque chose. Est-ce que cette pratique d'écriture pour le théâtre est plus propice à saisir la langue dans tout ce qu'elle recèle encore d'inconscient pour vous, Leslie Kaplan?
En tous les cas, pour moi, je dirais beaucoup, oui. En ce sens que le dialogue, c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être de plus en plus, parce qu'il oblige à travailler, disons, la concision, la condensation, ce qui a à la fois une sorte de valeur poétique, et une valeur de pensée, c'est-à-dire que si on veut faire un dialogue qui tienne, ou qui tienne debout, qui tienne pour une mise en scène, on peut pas être dans une écriture, disons, pour aller vite, naturaliste. On peut pas faire un échange comme de café de commerce. Il faut vraiment construire le dialogue. Sinon, en fait, on s'ennuie. Et ça, je trouve que c'est une façon de faire tenir dans quelques mots, dans des échanges, quelque chose qui peut être vraiment important. Et je crois aussi que c'est une façon de révéler ce que c'est que le personnage sans aucune explication, sans aucune introspection, mais par ce qu'il dit, ce personnage. C'est-à-dire qu'il est là dans ses mots, parfois les mots qu'il dit le dépassent lui-même, mais il est là en train d'essayer de trouver quelque chose et l'autre aussi.
Est-ce que l'écoute de votre propre métier alimente votre imaginaire, donc votre métier de psychanalyste ?
Je ne suis pas, moi, psychanalyste. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le psychanalyste » et je suis certainement nourrie de psychanalyse.
Vous passez votre temps à écouter les gens.
J'aime beaucoup écouter les gens.
Sans les mettre sur le divan.
J'aime beaucoup écouter les gens. Bon, ça c'est vrai. Mais ça c'est quelque chose, bon, peut-être tout simplement parce que les gens m'intéressent, l'autre m'intéresse, jusqu'où il est autre, il est inconnu. Ça m'intéresse beaucoup, toujours. C'est-à-dire, je me demande toujours ce que les gens ont dans la tête et comment ils se débrouillent et comment ils pensent une chose ou une autre. Bon, et c'est vrai que je trouve ça intéressant.
Nous allons écouter Marie Dorsan. Marie Dorsan, à propos de son expérience d'infirmière psychiatrique, dont elle a fait un livre magnifique, c'était le 27 octobre dernier.
Je suis infirmière psychiatrique, je travaille dans un appartement thérapeutique avec des patients entre l'âge de 13 et 20 ans. Donc on est dans la banlieue, on n'est pas dans l'hôpital. J'ai craché sur un patient. Après d'énormes tensions pendant des mois et des mois, beaucoup de violence dans le service, j'ai craché sur un patient. Et je me suis sentie très coupable, j'ai eu beaucoup de remords et une honte épouvantable. C'était absolument affreux. Et puis je suis allée au commissariat. Et au commissariat, ils avaient une vue tout à fait différente de la mienne. Ils ont dit, les policiers ont dit que les patients devraient être enfermés ou ce patient devait être enfermé à l'hôpital. J'ai dû expliquer mon travail. Je venais de faire du mal. Je suis une soignante avec une éthique plutôt forte. Je venais faire du mal à un patient et tout à coup, je me retrouvais avec des policiers qui, eux, ne voyaient pas le mal où moi je l'avais fait et parlaient juste d'une incivilité pour ce que je venais de faire. Et eux voyaient le mal dans l'autre jeune, alors que c'est que de la souffrance. Toute cette violence, c'est que de la souffrance. Donc là, j'ai commencé à... Tout s'effondrait, toutes mes valeurs, tout ce que j'avais... Enfin, tout ce que je présentais ne marchait plus parce que ça avait craqué. Quelque chose était sorti. Et donc, j'avais besoin, le crachat, j'avais besoin de penser, de réfléchir comment c'était arrivé. Et je lis tout le temps. Donc, pendant que je pensais à ce qui m'était arrivé, je lisais. Et à un moment, j'ai décidé d'écrire et de combiner les choses.
Vous avez lu ce livre de Marie Dorsan ?
Oui. Ben, je trouve que là, ce qu'elle dit, c'est vraiment très, très juste. C'est vraiment, d'abord, elle montre à quel point ce qui peut être complètement mal, bon, mettons fou pour quelqu'un d'autre, là, en l'occurrence, le policier, c'est dans la norme, c'est normal. Donc là, on a un vrai conflit de pensée. Elle le souligne très, très bien. Et elle montre aussi, enfin, ce qui me semble, moi, c'est que l'écriture était là, elle s'en est saisie plutôt, pour justement l'aider à penser ce qui venait de lui arriver et ce qu'elle venait de faire. Et évidemment, ça me fait penser à la phrase que j'ai très souvent citée de Franz Kafka. Écrire, c'est sauter en dehors de la rangée des assassins. Bon, elle, là, se trouvait vraiment meurtrière. Elle avait fait quelque chose d'épouvantable. Et écrire, ça l'aidait à dépasser ça, à mettre une distance et à la fois à comprendre et certainement à trouver autre chose à faire.
Comment se combine à l'intérieur de votre imagination et de votre pensée, Leslie Kaplan, la manière de réfléchir et de nous faire réfléchir et la faculté d'imaginaire ? Parce que vous faites des livres qui sont à la fois très sensibles et en même temps qui nous poursuivent parce qu'on y pense après, des livres engagés. Et d'ailleurs le dernier, Mathias et la Révolution, finalement, revient au tout premier, l'excès d'usine. Même si ce n'est pas du tout la même posture, le même dispositif d'écriture, on peut dire que c'est un livre engagé.
On peut certainement dire que c'est un livre engagé, certainement. Mais je dirais tout de même d'abord, et c'est peut-être en ça, en effet, qu'on peut le comparer au premier, c'est que quand on écrit, le premier engagement, finalement, c'est tout de même par rapport à la langue, c'est-à-dire de faire que ce soit un langage vivant, dit par des personnages vivants, et pas que ça retombe pas dans un langage mort. Bon, c'est vrai que le premier livre sur l'usine, l'excès l'usine, d'une certaine façon, essayer de montrer que l'usine, enfin de dire et de montrer visuellement presque par les mots que l'usine c'était pas ce qu'on pensait, c'est-à-dire quelque chose de très banal, mais que c'était au contraire quelque chose de assez complètement épouvantable. Bon, et à ce niveau-là, le langage, c'est vraiment redonner la possibilité de voir les choses autrement. Bon. Et je crois que, oui, c'est peut-être toujours ce que j'ai cherché dans l'écriture. Le livre qui vient juste avant Mathias et la Révolution, qui est d'ailleurs une pièce de théâtre, s'appelle « Déplace le ciel ». Bon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours, pour moi, la question du mouvement. C'est-à-dire de partir d'un certain point qui peut être, traumatique, et d'essayer de faire que l'écriture déplace ça.
Le ciel est vide, dit Mathias. C'est atroce, je m'en fous, mais c'est atroce. Personne ne mérite ça, je ne mérite pas ça. Mérite, dit Mathias très vite. Il s'étonnait, les mots sortaient tout seuls. Tout tient ensemble, c'est ça qui est bizarre. Comment est-ce possible? Est-ce que tout tient vraiment ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout tient ensemble. Si tout tenait vraiment ensemble, on serait dans un livre, comme dans un livre, entre deux couvertures. Ou est-ce que tout part en morceaux? Est-ce que moi je pars en morceaux? Peut-être, pas sûr. De toute façon, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas je pars en morceaux. Quand on dit un mot, ça fait exister la chose. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le croit pas. Il y en a trop, des cyniques. Les cyniques ne croient pas aux mots. Ils croient qu'ils peuvent manipuler les mots sans que ça ait un effet sur eux. Ils sont cons, ils se trompent.
Oui.
Ça, c'est ce que vous écrivez dans Mathias et la Révolution.
Oui.
Mais est-ce que tout tient vraiment ensemble?
Ah, écoutez, en tous les cas...
Quand on termine votre bouquin, on se dit que non.
Ben, oui et non, c'est-à-dire qu'on essaye de faire que les choses tiennent ensemble, puisque... En fait, on est là et on veut vivre ensemble. Mais bien entendu, la vie est pleine de conflits, souvent de conflits très graves, même de contradictions très graves. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui même en France, à Paris. Bon, et en même temps, les contradictions, ça peut être très positif, ça peut être un moteur pour qu'on change les choses. Mais l'important, c'est vrai que c'est de prendre les mots au sérieux et de ne pas croire qu'on peut manipuler les mots et dire n'importe quoi, comme malheureusement certains politiciens le pensent, et que ça n'est pas des faits, mais y compris pas des faits sur soi-même. Évidemment que ça en a. Les mots ont un effet.
Quelle est la part de fiction et quelle est la part de réalité dans l'univers que vous décrivez dans Mathias et la Révolution? Parce que quand vous mettez en scène un président de l'Assemblée nationale qui se réjouit qu'il y ait une sorte d'état d'atonie dans notre propre pays, un premier ministre qui se préoccupe de harceler les Roms et qui était autrefois ministre de l'Intérieur, on peut, sans faire beaucoup de recherches sur Internet, se dire que vous n'êtes pas très très loin d'une certaine réalité.
Ça, c'est dans la quatrième de couverture, parce que à vrai dire, dans le livre, il n'y a ni président ni premier ministre, il y a des gens dans la rue, mais... qui se, en effet, réfère tout à fait à l'état du monde actuel, à la société française comme elle est maintenant, ici et maintenant. J'ai voulu faire un livre dans Mathias et la Révolution vraiment sur le moment de maintenant. La part de fiction, c'est que tout le monde dans le livre se réfère à la Révolution française, qui évidemment a eu lieu il y a plus de 200 ans. Mais... les mots de la Révolution et d'ailleurs les événements aussi, bien entendu, la Révolution elle-même est encore présente. Et ça, pour moi, c'était très important de creuser un écart entre aujourd'hui et ce qu'il y a eu, c'est-à-dire un changement complet. Bon, la fin de la féodalité tout de même, la fin des droits féodaux, et c'est tout de même aussi une façon de pointer qu'un changement général et total, un changement de la façon même de penser, est possible aujourd'hui.
Un changement de la pensée est possible, mais comment penser la réalité? C'est ce que se posent comme question vos personnages, et c'est ce que vous mettez en scène. Je vais là aussi lire un court extrait de Mathias et la Révolution. Pour en sortir, il faut défendre le service public. Quel service public? Point de suspension. Le service public est détruit, en train d'être détruit. Les hôpitaux, les transports, les écoles, la poste, la recherche. En Grèce, le port du Pirée a été vendu. Partout, l'État est au service des banques et des multinationales. Le roi est nu, tout le monde le sait, mais il faut un enfant pour oser le dire. Un enfant, quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions, de penser autrement, de tout renverser, de remettre en cause le système des valeurs, la façon dont on pense, le cadre de pensée. Alors, pensez-vous que ce sont les enfants qui vont nous indiquer
En tous les cas, les enfants, avec leur étonnement et leurs questions, sont certainement quelque part, bien sûr, des modèles. En même temps, bien entendu, il faut tout de même beaucoup travailler, beaucoup réfléchir. Mais je crois qu'on arrive certainement à un point, et là, vraiment, je crois que c'est, il n'y a pas que moi qui le pense, qui le dit, où la civilisation que nous vivons est quand même vraiment à bout de souffle, et la question du droit de propriété et de l'appropriation par quelques-uns met en danger vraiment l'ensemble de la vie commune. Et ça, je crois que c'est des choses
qu'il faut... Vous parlez, Leslie Kaplan, de fin de civilisation.
Oui, je dis que c'est une question. Je crois que la civilisation, ça ne veut pas dire de toute civilisation, ça veut dire sûrement qu'il faut... pense inventer d'autres formes de rapports humains que seulement ceux fondés sur le marché et la propriété privée et l'appropriation par quelques-uns du monde. Ça, je crois que c'est vraiment, on arrive au bout de ça. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, l'État, des hôpitaux, comme je l'ai indiqué, plus banalement, presque de la poste, sans parler de l'état des écoles, etc., etc. C'est des choses, terribles, c'est-à-dire, pour prendre n'importe quelle mère de famille, elle sait bien que c'est un peu absurde que son enfant ait 40 petits collègues dans une classe de CP. C'est vrai, c'est vraiment glauque. Il me semble. Et est-ce que c'est vraiment une question de choix? À ce niveau-là, de choix et de décision politique.
Alors, votre bouquin n'est pas pour autant pessimiste, parce que même s'il retrace finalement cette espèce de mémoire que nous avons tous conservée français de la Révolution française, il se termine par « ça y est, le travail commence ».
Oui, en fait, il faut quand même...
Quel travail ? Parce qu'il y a une histoire d'accouchement, ce qui permet de penser que la vie continue et que...
Oui. Ça se termine sur le... ce qu'on peut...
Et que l'espoir réside dans les nouveaux venus.
Oui, c'est-à-dire que le travail, là, il est pris dans les deux sens, à la fois, bien sûr, du travail de l'accouchement et du travail à faire, parce que c'est tout à fait certain que on est au seuil d'un grand travail qui a déjà commencé. C'est-à-dire, il y a plein de gens dans plein d'endroits différents qui se mettent au travail de penser, au travail de faire, d'inventer d'autres modes de rapport au monde. Et ça, je crois que c'est vraiment un moment qui s'ouvre là. Et je crois que si le livre a un sens, c'est vraiment pour rendre ces questions et ces amorces de réponses vivantes. Je crois que c'est de montrer que c'est pas des discours abstraits, mais que ça se passe dans la vie, avec des mots, avec des échanges, avec des dialogues, avec des personnages, parce qu'il y a toutes sortes de personnages qui peuvent aller, en effet, d'une mère de famille à un SDF qui habite le jardin du Luxembourg, etc., etc.
Merci beaucoup, Leslie Kaplan. Je rappelle que vous êtes l'auteur de très nombreux textes, tous publiés chez POL. Le premier, c'était L'excès, l'usine. Il y en a beaucoup. Il y a Le psychanalyse, Les amants de Marie, Fait vert, Mon Amérique commence en Pologne, Le criminel, Le pont de Brooklyn, Mille feuilles, et le dernier s'intitule Mathias et la révolution. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.